Bonjour, cher frère. C'est merveilleux de voir tout le monde. Je peux maintenant vous voir un peu mieux. Bienvenue à l'office du Seba, et c'est une belle journée à l'extérieur. On dirait les sables blancs de Destin, mais un peu plus froid. Si vous ne le savez pas, nous avons beaucoup de neige, c'est l'heure d'hiver. C'est l'hiver. Alors, mes frères, entrons tout de suite dans le message. Commençons paragraphe une question. Quelle est la composante essentielle de toute organisation, de tout groupe, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une équipe, d'une famille? Quelle est cette composante essentielle, mes frères? Un terrain d'entente. C'est un terrain d'entente. C'est le fait d'avoir des esprits similaires. C'est avoir un objectif commun. Avoir au moins un point sur lequel tous peuvent être d'accord, au moins un point qui unifie, au moins un point sur lequel construire et grandir. Frères et sœurs, nous, l'Église, nous avons un terrain d'entente. Nous avons plus d'un point, évidemment, mais nous avons un terrain d'entente. Cela fait de nous l'Église de Dieu. Cela fait de nous le temple de Dieu. Frères et sœurs, cela fait de nous la demeure de Dieu. Le point commun est l'Esprit de Dieu. Voici donc la déclaration, mes frères. En nous rapprochant des frères où réside l'Esprit de Dieu, ce terrain commun nous rapproche de Dieu. Encore une fois, le fait de se rapprocher des frères où l'Esprit de Dieu habite, nous rapproche de Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment le fait de se rapprocher, d'apprendre à mieux connaître, si vous voulez, les frères, nous aide à mieux connaître Dieu, nous aide à nous rapprocher de Dieu. Commençons donc. La première façon, mes frères, c'est de nous réunir. Nous nous réunissons. Si vous voulez vous réunir, devinez quoi? Il faut se réunir. La première façon est donc de se rassembler. Examinons quelques passages des Écritures pour bien faire comprendre ce qu'il en est. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais il est toujours bon de revenir en arrière, de regarder et de comprendre. Ouvrez donc vos Bibles au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, et nous commencerons au verset 25. Nous ne lirons pour l'instant que la première partie du verset 25. Le verset 25 dit en hébreu, sans négliger l'assemblée, comme le font certains. Voilà. C'est la parole inspirée de Dieu pour Paul, qui nous dit de ne pas abandonner l'assemblée. Si Dieu fait ne serait-ce qu'allusion à quelque chose que nous devrions faire, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous ne pouvons pas abandonner l'assemblée, frères. Le mot abandonner signifie laisser derrière soi, laisser subsister ou déserter. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Nous ne pouvons pas la laisser en suspens. Et assemblée, mes frères, signifie un rassemblement complet, en particulier une réunion chrétienne pour le culte. C'est donc un ordre de Dieu. Nous devons nous réunir pour nous rassembler. Est-ce seulement le jour du sabbat? Oui, le jour du sabbat. Voyons donc cela, mais examinons aussi d'autres façons dont il nous est ordonné de nous rassembler. Tout d'abord, passons à ce que l'on appelle le chapitre des jours saints, Lévitique 26. Lévitique 23, pardon. Lévitique 23. Commençons par le tout début. Lévitique 23 est le premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parlez aux enfants d'Israël, et dites-leur ce qui concerne la fête de l'Éternel, que vous publierez comme une sainte convocation, ce sont là mes fêtes. Les saintes convocations, mes frères, signifient une assemblée ordonnée. Encore une fois, l'ordre de se réunir. Maintenant, si vous. Le verset suivant commence par indiquer de quelle fête Dieu parle. Il commence par le sebba hebdomadaire, dès le début. Il parle de 6 jours de travail, mais le 7e jour est le sebba du repos. Un sebba de repos où nous nous réunissons. Et tous les versets suivants passent directement au grand sabbat, au jour saint. Ce n'est donc pas seulement le sabbat hebdomadaire qui nous commande de nous réunir, de nous assembler, mais chaque sabbat. Nous savons que Dieu dit « gardez mes sabbats » au pluriel. C'est une façon de faire. C'est une façon, mes frères, de nous réunir pour une seule raison, les assemblées ordonnées par Dieu pour les sabbats. Approfondissons donc un peu cette question. Comment le fait de s'assembler nous rapproche-t-il de Dieu? Dieu nous le dit-il? Bien sûr qu'il le fait. Nous nous tournons vers les 1 Corinthiens, au chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Pendant que vous y êtes, pensez à toutes les façons dont nous bénéficions de nos assemblées. Nous allons nous pencher davantage sur le comment, mais il y a aussi un, il y aura aussi du pourquoi. 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 16. Tournez ma page. Le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le mot « temple » signifie « habiter ». Ainsi, cela. « Ne savez-vous pas que vous êtes la demeure de Dieu ?» Puis il se retourne et le répète, en disant que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, encore une fois, si nous voulons nous rapprocher de Dieu, nous devons nous rapprocher de l'endroit où Dieu habite. Dieu habite dans son peuple. Il habite dans nos cœurs, et nous allons le voir maintenant. Il s'agit de savoir où Dieu place son esprit. Il faut se reporter au chapitre 1 et au verset 22 de la deuxième épître aux Corinthiens. Cela nous dit en fait où Dieu place son esprit et la quantité avec laquelle il commence. 2 Corinthiens, chapitre 1 et verset 22, « Frères, il est dit, celui qui nous a marqués d'un sceau. » Il s'agit du Père, celui qui nous a marqués d'un sceau et qui nous a donné les arts de son esprit dans nos cœurs. Le mot « scellé » signifie que l'on appose un sceau ou une marque privée pour assurer la sécurité ou la préservation. Dieu appose sa marque, ce qui signifie que nous lui appartenons. C'est ma demeure pour préserver son temple. Un ist signifie un gage qui est une partie de l'argent de l'achat ou de la propriété donnée à l'avance comme garantie pour le reste. Il s'agit également d'un acompte. Lorsque nous versons un acompte pour l'achat d'un véhicule, d'une maison ou d'un bien important, l'acompte n'est pas une mesure complète. Dieu nous donne un acompte avec la promesse qu'il nous donnera le reste plus tard, à condition que nous restions près de lui. Encore une fois, l'un des moyens d'y parvenir est de se réunir, frères. Cela nous rapproche, nous donne de la force. Et vous savez, pourquoi Dieu voudrait-il que nous fassions cela? Vous savez, pourquoi? C'est évident, mais voyons pourquoi Dieu voudrait que nous fassions cela. Rassembler, se rapprocher. Dieu veut que son peuple, frère, Dieu veut que son peuple se rassemble sur son terrain commun. Ce terrain d'entente, ce sérieux, c'est un cachet qui signifie que sa demeure est dans nos cœurs. C'est là que Dieu habite. C'est là que, lorsque nous nous approchons des frères, nous nous approchons de Dieu. Lorsque j'ai commencé à y réfléchir, c'était évident, mais je n'avais jamais fait le lien entre les deux. Oui, nous savons tous que nous devons nous rassembler, que nous devons nous réunir le jour du sabbat, mais d'une autre manière, pensez aux réunions, aux activités. Ce sont des moments où nous pouvons nous rassembler, puiser de la force les uns dans les autres. Devinez quelle force nous tirons les uns des autres. Nous puisons dans ce terrain commun, dans l'Esprit de Dieu, dans ceux qui sont assis à côté de nous et qui font partie de la même congrégation que nous, dans l'ensemble de notre pastorat, dans d'autres pastorats, dans l'Église de Dieu, mes frères. Se rapprocher nous rapproche de Dieu et de sa force. Alors, comment obéir au commandement de Dieu de se rassembler? Comment devrions-nous, devons-nous obéir au commandement de Dieu de se rassembler? Revenons à Hébreux 10. J'ai dit que nous n'allions lire que la première partie. Lisons maintenant la suite. Hébreux 10 et le verset 25. Hébreux 10 et le verset 25. Lisons-le en entier cette fois-ci. Ne négligeons pas de nous réunir, comme le font certains, mais nous exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui, frères, lorsque nous voyons arriver le sabbat, nous devons exhorter les frères. Oh, et d'ailleurs, le mot « exhortation » signifie appeler, inviter, invoquer, tendre la main. Et, vous allez assister au culte cette semaine, n'est-ce pas? Vous serez à la fête cette année, ou au grand jour. Vous allez participer aux activités sociales, aux activités, n'est-ce pas? Ou, je vous invite à venir. Exhortez, les frères. C'est une façon pour nous, parce que si nous faisons cela aux autres frères, et qu'ils nous exhortent, c'est ainsi que nous remplissons le commandement de nous rassembler parce que nous nous réunissons. Nous sommes, vous savez, invités. Nous sommes appelés à nous approcher. L'exhortation est donc la première façon de pouvoir, d'accomplir le commandement de se rassembler. Une autre façon est de planifier. Nous comprenons que des choses surviennent dans nos vies, mais nous devons avoir des priorités claires. Pour en revenir au sabbat, nous comprenons qu'il s'agit d'un commandement, le sabbat. Nous ne pouvons pas abandonner le sabbat. Eh bien, pour être sûr d'être prêt, que ce soit pour le sabbat hebdomadaire ou le grand sabbat, mes frères, il faut planifier. Il faut planifier. Nous avons un jour de préparation, mais il est presque préférable de considérer que nous avons 6 jours pour travailler, pour nous préparer, pour ensuite nous réunir et nous rassembler, pour nous reposer, pour vraiment grandir, pour puiser la force de l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Il faut donc planifier, il faut se préparer, ne serait-ce que pour passer la semaine. Une autre façon de procéder, qui demande de la planification, c'est avec nos employeurs. Certains ont la chance de ne pas avoir à demander et à s'assurer que leur employeur, leur entreprise, ne les planifie pas le jour du sabbat ou un jour saint. Mais beaucoup doivent faire face à cette situation. Beaucoup doivent y faire face, parfois chaque semaine. C'était mon cas. Nous devons nous assurer que nous planifions bien les choses, que nous allons voir notre employeur avec audace et gentillesse, avec la volonté de Dieu dans nos cœurs. Si nous avons besoin d'une force supplémentaire, nous pouvons parler aux frères, nous rassembler. Lorsque nous nous réunissons, nous puisons cette force, frères, mais assurez-vous que notre planification est faite pour que nous puissions venir et nous réunir. Et puis il y a les finances. Il faut des moyens financiers, parfois, tout le temps, rien que pour aller quelque part. Nous devons donc mettre de l'ordre dans nos finances pour pouvoir nous réunir. D'accord. C'était la première façon. La première façon, juste pour voir, et je vais faire une déclaration ici, ce n'est pas une liste exhaustive, loin s'en faut. D'accord. Ce n'est pas une liste exhaustive. Ce message serait beaucoup plus long s'il était exhaustif. J'aurais besoin de beaucoup d'aide pour le faire. La deuxième façon, frères, de nous rapprocher des frères et de nous rapprocher de Dieu, parce que nous nous réunissons, parce que nous nous assemblons, tout cela est lié, c'est d'élargir votre zone de confort. Nous avons tous notre propre zone de confort. Lorsque nous entrons dans la vérité pour la première fois, lors de notre tout premier sabbat, je me souviens du mien, J'étais un peu distant. Je ne voulais pas, oh, poser de questions parce que je ne savais littéralement rien, mais avec le temps, j'ai appris que si je voulais apprendre quelque chose, je devais sortir de ma zone de confort. Je dois faire le premier pas. Le fait de se rapprocher des frères nous donne la force de le faire. Tout le monde a eu son premier jour, son premier sabbat, tout le monde. Essayez donc de ne pas penser, personne n'a vécu ce que je vis lors de mon premier sabbat. Tout le monde a vécu cela, parce qu'ils l'ont tous vécu, je l'ai vécu, vous l'avez vécu. C'est peut-être votre premier sabbat. Je sais donc que tous ceux qui entendent le message ont vécu ou vivent leur premier sabbat. Comment sortir de notre zone de confort, mes frères? En se portant volontaire. Volontaire. Si quelqu'un a besoin d'être conduit à l'office, faites un pas en avant. Dites, c'est sur mon chemin. Je m'arrêterai. Je vais l'emmener. Devinez quoi? Cela vous donnera plus de temps pour apprendre à connaître vos frères. Cela vous donnera le temps de vous rassembler, de vous approcher de Dieu pendant le trajet en voiture. Que ce soit pour se rendre à la messe, pour en revenir, ou pour aller et venir. Quelqu'un a besoin d'un chauffeur pour aller au magasin, et vous êtes assez près, si vous avez la chance d'être près de frères, pour pouvoir leur donner un chauffeur, oui, le sabbat ou pendant la semaine, frères, portez-vous volontaire. Prenez ce temps. Servir. Servir est une autre façon de faire. Servir pendant le sabbat. Demandez à votre ministre, comment puis-je servir? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Ce n'est peut-être pas dans votre zone de confort. C'est peut-être, eh bien, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Eh bien, devinez quoi? Il est temps de commencer à le faire parce que cela vous rapproche. Si vous travaillez côte à côte avec quelqu'un, vous apprenez à mieux le connaître. Vous en tirez de la force. Partagez un repas. Asseyez-vous lors d'un repas partage. Essayez de vous asseoir avec des personnes différentes. Maintenant, si vous êtes dans une congrégation de deux personnes, c'est un peu difficile de s'asseoir avec quelqu'un de nouveau chaque sabbat, mais si vous êtes plus de deux, c'est encore un peu difficile parce que vous êtes à la même table, mais vous vous aventurez à l'extérieur. Apprenez à connaître tous les membres de votre congrégation, et un repas est un moment merveilleux. Vous venez d'entendre un message. Devinez quoi? Vous avez là un terrain d'entente pour parler de ce message. Entamez une conversation. Vous savez, il est parfois difficile d'entamer cette conversation si vous n'en avez pas l'habitude, mais habituez-vous à le faire. Plus vous le ferez, plus cela deviendra facile, plus vous serez ouvert, plus vous serez accueillant. Permettez-moi de le dire ainsi, plus vous exhortez les gens, plus vous les invitez. Vous invitez les gens en vous ouvrant. Ils viendront à vous. Pensez à vous, lorsque vous voyez quelqu'un d'extraverti, vous vous sentez plus à l'aise pour l'approcher. Parfait, approchez-les. Apprenez des frères. Prenez leur exemple. Prenez leur exhortation juste par l'exemple, et apprenez. Partagez une expérience. Racontez quelque chose de votre vie. Avez-vous vécu une guérison? Avez-vous été témoin d'un miracle? Avez-vous participé à un miracle? Partagez-le. Parlez-en. Il ne s'agit pas forcément de ces choses-là, mais ce ne sont que des exemples. Parlez de quelque chose qui se passe dans votre vie. Demandez aux frères, que se passe-t-il dans votre vie? Je veux mieux vous connaître. Je veux me rapprocher de vous. Maintenant, vous savez pourquoi, parce que vous vous rapprochez aussi de Dieu. Partagez une bénédiction. Comme je l'ai dit, cette liste est inépuisable. Développez vos compétences en matière de communication. Oui, nous étions. J'ai parlé de parler, de sortir et de parler. Une conversation comporte deux parties. Oui, il faut apprendre à s'avancer et à parler, mais aussi à s'asseoir et à écouter. Nous apprenons davantage lorsque nous écoutons. Nous ne nous contentons pas d'attendre. Je ne peux pas attendre qu'ils reprennent leur souffle. Je vais me lancer et parler. Eh bien, écoutez. C'est ainsi que nous allons apprendre à connaître celui qui est assis à côté de vous, celui qui est assis de l'autre côté de la table du potluck. C'est ainsi que vous allez apprendre à connaître votre pasteur. Comment votre ministre va apprendre à vous connaître, en parlant et en écoutant. Parlez et écoutez. Une dernière chose sur la zone de confort, assurez-vous. Comment dois-je formuler cela? Je vais faire une chose à faire et pas une chose à ne pas faire. Arrivez tôt au service, arrivez tôt aux activités, etc. N'arrivez pas 5 heures à l'avance, mais assez tôt pour avoir vos conversations, pour élargir votre zone de confort, pour vous rassembler, et restez ensuite assez tard pour continuer. N'arrivez pas tard et ne partez pas tôt. Saisissez toutes les occasions, mes frères. Tout voyage commence par un premier pas. Et ce premier pas hors de notre zone de confort, mes frères, la récompense est impressionnante. Une troisième voie que le fait de s'approcher des frères, et cela implique un acte, le fait de s'approcher des frères nous rapproche de Dieu. Il nous rapproche de la pensée de Dieu. Passez au Proverbe 27. Proverbe 27 et verset 17. Proverbe 27 et verset 17. Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise la continence de son ami. Le fer aiguise le fer. Comme, waouh, de quoi parlez-vous? D'aiguiser quelqu'un? Oui, aiguiser notre caractère chrétien. Aiguiser, mettre un bord fin sur les fruits de l'Esprit de Dieu, ce terrain d'entente entre les uns et les autres. Cette demeure de Dieu en nous, qui construit son caractère. Tout le monde a un couteau de cuisine qu'il utilise et qui est bien aiguisé. Il peut s'émousser de temps en temps. Que fait-on pour l'aiguiser? Vous prenez un bâton de beurre chaud et vous l'affûtez sur ce bâton de beurre chaud. Non, cela ne vous servira à rien. Vous obtenez quelque chose de plus dur que l'acier de ce couteau parce qu'il faut une certaine résistance. Il faut un certain effort pour aiguiser un couteau. Eh bien, frère, parfois, vous savez, il faut une certaine dureté, il faut une certaine résistance parfois pour mettre un bord plus tranchant sur nous-mêmes, pour mettre un bord plus tranchant sur celui qui est assis à côté de nous. Bien sûr, il y a de bonnes et de mauvaises façons de le faire, et nous allons en parler. L'une d'entre elles consiste à relever des défis. L'un des défis dont nous avons parlé consiste à sortir de notre zone de confort. C'est une façon, vous savez, de nous aider à nous aiguiser. Exhorter les frères à venir à chaque activité est une façon de les aider à s'affûter en les faisant participer. La correction. D'abord, nous corriger nous-mêmes. Vous savez, nous allons approfondir ce point, mais la correction nous met à l'épreuve. Elle affine les frères. Dieu nous corrige. Il le fait parce qu'il nous aime. Donc, si nous devons corriger quelqu'un, frère, nous devons prendre l'exemple de Dieu et le faire par amour. Faites-le pour le bien. Nous avons également parlé de l'exemple. Voir comment quelqu'un fait quelque chose lors de l'observation, apprendre ce qu'il faut faire en voyant quelqu'un d'autre le faire. Par exemple, « Ah, je n'ai pas fait cela comme il faut. Il faut que je m'affûte, que je m'affine, Parce que maintenant je vois comment il faut faire. Commençons donc. Qui aiguisons-nous? À qui appliquons-nous les proverbes 27 et 17? Nous restons dans les proverbes. Retournez au chapitre 9. Chapitre 9, verset 7. Chapitre 9 et verset 7 dans les proverbes. Celui qui reprend un moqueur s'attire la honte. Cette honte signifie le déshonneur. Et celui qui réprimande un méchant s'attire une tâche. Cette tâche signifie une tâche ou un défaut. Nous ne voulons ni l'un ni l'autre. Proverbe, verset 8, ne réprimandez pas celui qui se moque. Très bien, cela nous dit que c'est la personne que nous ne devons pas réprimander. C'est la personne que nous n'aiguisons pas. C'est lui que nous n'essayons pas de corriger, un moqueur, de peur qu'il ne vous haïsse. Ah, mais bonne nouvelle, réprimande le sage, et il t'aimera. Pourquoi? Parce que nous le faisons par amour, en prenant l'exemple de Dieu. Verset 9, instruisez un homme sage, et il deviendra plus sage encore. Enseignez un homme juste, et il s'instruira davantage. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui veulent vraiment apprendre, ceux qui veulent vraiment changer, sont réceptifs aux conseils? Vous pouvez appeler cela une correction, mais il s'agit d'un conseil, d'une direction. Frères et sœurs, nous avons parlé de correction. Eh bien, là, laissez-moi vous donner un exemple de la manière dont les frères peuvent et doivent corriger les autres frères. J'ai entendu une histoire, quelqu'un était tout nouveau dans l'église, et les frères allaient au restaurant pour un repas. Et la nouvelle invitation, le nouveau membre, a baissé la tête et a prié dans le restaurant en public. Eh bien, les membres n'ont pas arrêté la personne, ils l'ont laissé finir, et puis après coup, une fois le repas terminé, ils sont allés vers elle. L'un d'entre eux l'a fait et lui a simplement expliqué que nous ne prions pas en public. C'était plus un conseil, c'était plus une orientation. Ensuite, il leur disait, « Très bien, si vous avez besoin de plus de compréhension, vous savez, allez voir votre pasteur. C'est lui qui peut donner un sens spirituel plus approfondi, mais nous pouvons quand même faire notre part. » Nous devons aiguiser les sages et les justes. Les sages et les justes. Mais, j'y ai fait allusion tout à l'heure, par qui commençons-nous? Commençons-nous par les sages et les justes? Nous l'espérons, mais voyons par qui nous commençons. Nous nous tournons vers Luc, chapitre 6, parce que si nous voulons le faire correctement, il y a un ordre correct pour le faire. Luc 6 et le verset 41. Luc 6, commencez par le verset 41. Pourquoi vois-tu le fossé qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever le fossé qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas toi-même la poutre qui est dans ton œil? » Hypocrite, chasse d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la douve de l'œil de ton frère. Frères et sœurs, nous devons d'abord nous aiguiser. Nous devons d'abord nous regarder dans le miroir. Nous voulons éviter l'hypocrisie. Nous voulons pouvoir dire, non seulement, vous savez, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, mais dites, faites ce que je dis et faites ce que je fais. Parce que nous devons être les sages. Nous devons être les justes. Pour ce faire, mes frères, nous devons nous assurer que nous sommes bien affûtés. Nous devons nous assurer que nous construisons et que nous avons ce côté tranchant de l'Esprit de Dieu, les fruits. Maintenant, si, une fois que nous avons fait cela, nous pouvons passer aux sages et aux justes. Mais comment faire ? Tournons-nous vers les Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. C'est incroyable. La parole de Dieu a littéralement des réponses pour tout. Cela ne devrait pas être étonnant, mais cela l'est quand même. Les réponses sont là. Comment? Comment allons-nous maintenant, par amour, aiguiser, aider, corriger, enseigner les sages et les justes? Éphésiens 4, verset 23, renouvelez l'esprit de votre intelligence. D'accord, il s'agit de personnes qui ont l'esprit de Dieu, qui ont un terrain d'entente. Verset 24, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la vraie sainteté. C'est pourquoi, renonçant aux mensonges, vous direz chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi faisons-nous tout cela? Pourquoi cette dernière déclaration, que le soleil ne se couche pas sur votre colère? Ne laissez pas la lumière s'éteindre, mes frères. Le verset 27 nous dit, ne cédez pas au diable. Nous savons que Dieu est lumière. Nous savons que le diable, Satan, est ténèbre. Nous ne lui laissons pas de place. Pas la moindre place. Maintenant, revenons en arrière et examinons cela un peu plus en détail. Comment aiguiser les autres? Nous commençons, frères, par nous assurer que nous le faisons avec droiture. Nous suivons les lois de Dieu, auxquelles nous avons fait référence dans Luc, mais nous devons le faire honnêtement, et nous devons le faire ensemble. Il faut parfois plus d'un frère. Il y a la loi de Dieu. Vous savez, nous avons parfois besoin de faire appel à une autre personne pour nous aider à faire passer le message. Elle dit, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Il y a une colère juste. Il y a la juste colère, et il s'agit de dire que si nous avons cette juste colère, nous devons la résoudre avant que le soleil ne se couche. Nous devons le faire immédiatement. C'est alors que nous pourrions avoir quelque chose à reprocher à quelqu'un d'autre. Et si les rôles sont inversés? Et si quelqu'un a quelque chose contre nous? Dieu en parle-t-il? Comment cela doit-il? Comment devons-nous gérer cela? Allons à Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5. Reprenons au verset 21. Matthieu 5, le verset 21. Rappelez-vous, nous venons de parler du fait que si nous avons une juste colère, nous devons la résoudre avant que le soleil ne se couche. Le verset 21 de Matthieu 5 dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens qu'il ne faut pas tuer et que quiconque tuera sera menacé par le jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère. Il s'agit d'eux, de nous qui sommes en colère contre leur frère ou un frère, sans raison sera en danger de jugement, et quiconque dira à son frère, « Raca », sera en danger de conseil, mais quiconque dira, « Imbécile », sera en danger du feu de l'enfer. Voici le point principal. C'est pourquoi, si tu apportes un présent à l'autel, si nous nous présentons devant Dieu, si nous allons sacrifier devant Dieu, cela pourrait même être dans nos sacrifices quotidiens, frères, nos prières, pensez-y, et là. Juste avant que nous nous préparions à donner à Dieu notre sacrifice, là souviens-toi que ton frère a quelque chose contre toi. Non pas que nous ayons quelque chose contre eux, mais oh oui, c'est vrai. Je leur ai fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Laisse ton cadeau, dépose-le. Ne l'offrez pas encore. Déposez-le devant l'autel. Va-t'en. Réconcilie-toi d'abord avec ton frère. Puis viens offrir ton offrande. Ce sont différentes façons dont Dieu nous enseigne à être la pierre dure à aiguiser et à accepter la pierre dure à aiguiser contre nous aussi. Nous avons besoin d'être aiguisés, donc si nous avons une juste colère, Nous devons la résoudre immédiatement. Si nous savons que quelqu'un a eu une juste colère contre nous, nous devons aller la résoudre immédiatement. C'est à nous qu'il incombe de le faire, mes frères. Si c'est sur tout le monde, alors c'est sur tout le monde. Tout le monde règle ce problème. Nous ne laissons pas la place au diable. Pas du tout, pas en une seule chose. Voici un principe que l'on m'a enseigné il y a des années et que je n'ai jamais oublié. Voici une façon de voir les choses, un principe général. Soyez aussi doux que possible et aussi ferme que nécessaire. Soyez aussi doux que possible et aussi ferme que nécessaire. Encore une fois, lorsque nous devons être cette pierre aiguisée, nous le faisons par amour, parce que nous nous sentons concernés. N'oubliez pas que c'est la demeure de Dieu. Nous voulons nous rapprocher de Dieu en nous rapprochant des frères. Très bien, frères, quatrième moyen. Une quatrième façon de nous rapprocher de Dieu en nous rapprochant des frères, en devenant un. C'est en quelque sorte une évidence. Oui, mais nous devons devenir un. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'unité? Est-ce important pour Dieu? Ah, ce n'est qu'une pensée passagère. Non, ce n'est pas le cas. Retournez à Jean. Jean 17. Jean 17 et le verset 21. Jean 17 et le verset 21 déclare, « Afin que tous soient un. » C'est Christ qui parle, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Qu'ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, et que je leur donne la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaits en un seul et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je pense qu'il est important pour nous de devenir un. Dieu dit qu'un seul est parfait, mais nous devons, cela demande du travail. Il faut franchir les étapes précédentes. Il faut s'affûter. Il faut sortir de notre zone de confort. Il faut s'assembler. Cela exige tout le reste, mais cela nous amène à l'unité, à ce terrain d'entente, à l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Rappelez-vous, ce n'était que du sérieux, mais ce sérieux grandit à mesure que nous nous affinons et que les fruits de l'Esprit de Dieu s'affinent. Devenir cette épée à deux tranchants, pourrait-on dire. Mais comment? Comment pouvons-nous le devenir? C'est facile à dire. Nous en avons déjà parlé en partie, mais regardons cela un peu plus en profondeur. Restez dans Jean 17 et revenez au verset 15. Même chapitre, même livre. Comment? Quelles sont les différentes façons de devenir un? À l'exemple du Christ, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mal. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Christ parle de parler au Père dans la prière, de la façon dont il va prier pour les frères. Et ces écritures se trouvent juste avant qu'il ne parle de devenir un. De sorte que la prière nous aide à devenir un. Pensez-y. Avez-vous déjà prié pour quelqu'un dans l'Église? Je suis sûr que oui. Qu'est-ce qui rend vos prières plus ferventes? Qu'est-ce qui rend vos prières plus vivantes dans votre cœur et votre esprit? Si vous savez pour qui vous priez, si vous connaissez la situation dans laquelle vous priez, vos prières sont plus ciblées. Pour cela, il faut se rapprocher. Et plus nous prions à l'adresse, plus nous pensons aux frères, ce qui nous rapproche naturellement d'eux. La prière est donc incroyablement importante. Oui, nous comprenons que c'est l'un des outils de la croissance chrétienne, mais avez-vous déjà pensé que prier pour les frères nous rapproche aussi de Dieu parce que cela nous rapproche des frères? Nous devons comprendre leurs besoins et leurs épreuves, leurs succès et même leurs échecs, afin d'être là pour eux et de prier pour eux. Quelle sensation merveilleuse lorsque l'un des frères vous dit « Vous êtes dans mes prières ». Cela ne vous remonte-t-il pas le moral? Cela me fait du bien, rien que de penser que quelqu'un m'inclut dans ses pensées, peut-être à l'autre bout du monde. Pensez aux cartes de prompt rétablissement. N'est-il pas merveilleux de recevoir une carte du monde entier avec tous les noms qui y figurent et qui dit « Je prie pour vous ». Cela nous édifie. Cela nous rapproche de ceux, juste les noms, et ceux qui écrivent ont lu un peu sur cette personne et ont appris à la connaître. Quelles sont les autres façons de nous unir? D'autres moyens. Passez aux Philippiens. Philippiens 2 et verset 1. Philippiens 2 et verset 1. Par où commencer? Commençons par le verset 2. Philippiens 2 et 2. Réjouissez-vous d'avoir les mêmes sentiments, d'avoir le même amour, d'être d'un même accord, d'avoir un même esprit. Que l'on ne fasse rien par querelle ou par vaine gloire. Mais que chacun s'estime supérieur à soi-même, dans la modestie de l'esprit. Que chacun ne regarde pas à ses propres affaires, mais que chacun regarde aux affaires d'autrui. Frères et sœurs, si nous voulons devenir un, nous devons avoir des esprits semblables. Si nous voulons devenir un avec les frères et ainsi nous rapprocher de Dieu, lorsque nous faisons quoi que ce soit pour les frères, que ce soit prier pour les frères ou servir les frères, nous ne le faisons pas par querelle ou par vaine gloire pour l'orgueil personnel. Nous le faisons avec humilité. Nous les élevons en nous abaissant nous-mêmes. Nous nous intéressons à leurs besoins et pas seulement aux nôtres. Cela nous rapproche les uns des autres. Cela nous rapproche, mes frères. Passez à quelques autres passages des Écritures. Allez dans les 1 Corinthiens, au chapitre 12. Dans le même ordre d'idées, vous savez, comment pouvons-nous devenir un avec les frères? Je dirais presque, comment devons-nous devenir un avec les frères? La 1 Corinthiens 12 et le verset 25. 12. Verset 25. Frères, dit, qu'il n'y ait pas de schisme, pas de rupture, pas de division, pas de séparation, dans le corps, mais que les membres aient les mêmes soins les uns pour les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent. Nous ne pouvons pas remplir ces conditions si nous ne sommes pas proches les uns des autres. Nous ne pouvons pas les réaliser si nous ne nous sommes pas rapprochés des frères, nous rapprochant ainsi de Dieu, mes frères. C'est ainsi que nous y parvenons. Comme je l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. Pas le moins du monde. Pas le moins du monde. Alors rappelez-vous, mes frères, nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu parce que Dieu nous a donné les arts de son esprit. Il nous a marqués d'un sceau pour nous préserver, avec la promesse d'une pleine mesure à venir. Nous nous rapprochons des frères et de Dieu en nous rassemblant, en élargissant notre zone de confort. En s'aiguisant, nous nous aiguisons nous-mêmes, nous aiguisons nos frères. Les frères nous aiguisent et deviennent un. C'est important. Chacun de ces éléments renforce. Chacun d'entre eux unit. Chacun d'entre eux ajoute à ce terrain d'entente en nous. Cela nous aide à être plus fructueux. Il y en a un cinquième. La voici. Tout ce que vous pouvez trouver qui vous rassemble. C'est le cinquième. Une dernière série de versets. Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Frères et sœurs, Le Père et Christ sont un, donc là où est Christ, le Père est aussi. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Saisissez toutes les occasions de vous rapprocher les uns des autres maintenant, et de vous rapprocher de Dieu.